Bonjour, le groupe 11, entrée intelligence collective. Alors, je vais vous faire le retour sur votre entrée dans ce glossaire. D'abord, je pense que vous avez répondu aux attentes sur les lectures croisées, donc ça, il n'y a pas de souci. Les consignes sont respectées, je pense que là, ça va bien. Je vais donc entrer directement dans votre propre entrée. Alors l'historique, à mon avis, est un peu, et les gens qui vous ont lu l'ont dit d'ailleurs, il y a certaines idées qui mériteraient d'être développées. Vous parlez d'intelligence collective, vous parlez de Teilhard de Chardin qui a formulé le concept de noosphère, et plus précisément Hubert Reeve qui s'interrogeait sur le sens d'évolution, le devenir de l'homme, à la recherche de l'accroissement de son savoir et de ses performances. Est-ce qu'on peut mettre ces choses sur le même pied, ces trois conceptions sur le même pied, en une seule phrase, sans les expliquer? Vous vous rattachez, je trouve, très artificiellement et sans aucune argumentation, la noosphère, qui est la sphère de l'esprit, et alors la recherche, l'accroissement de son savoir et ses performances par l'homme, à une intelligence collective. Ce qui est propre à l'intelligence collective, c'est effectivement l'accumulation des compétences par une mise en commun d'un certain nombre de savoirs, de connaissances et de compétences à travers des réseaux particuliers qui permettent cette mise en commun. Et du coup, ça me paraît très mécanique, et surtout pas du tout argumenté. Et donc, ça me paraît une argumentation assez faible. Voilà. Alors, vous faites une relation, vous revenez effectivement sur l'histoire de l'informatique, avec Bush et Nelson. Bon, c'est cette métaphore du cerveau humain comme étant celle d'un ordinateur, ou la métaphore de l'ordinateur comme étant celle du cerveau humain, c'est vrai que c'est important, mais ça n'explique pas encore l'intelligence collective. Alors, c'est vrai que, où c'est juste, c'est que vous dites qu'Internet est sans doute l'occasion de la mise en réseau de ces cerveaux et de ces intelligences à travers un dispositif de réseautage informatique. Mais je pense que c'est extrêmement condensé. Je pense que c'est sous cette forme condensée, c'est peu argumenté et c'est peu crédible comme explication, d'autant que vous êtes là quand même dans un travail de glossaire, donc il doit fonder des définitions pour vous, pour d'autres, pour vos collègues. Et si voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention à tout ce qui est écrit pour que tout ce qui est écrit soit effectivement répétable et devienne une source fiable pour vos collègues. Or là, je trouve que la fiabilité de l'information que vous donnez, dans la façon dont vous la formulez, n'est certainement pas la meilleure. Alors, vous donnez une définition de l'intelligence collective qui vient de chez Lévy, qui est une définition assez conventionnelle et qui est assez correcte. Vous la commentez, notamment en rajoutant une définition de Ribet qui effectivement va dans le sens. En fait, c'est vrai que chronologiquement, ils sont pas dans le bon ordre, ce qu'on pourrait vous reprocher d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a conceptuellement des affinités entre les deux, et donc c'est intéressant de mettre les deux. Ce qui aurait été plus intéressant, de toute façon, c'est aussi de comparer les deux, de les mettre en opposition. Ce qu'apporte Ribet dans cette définition, c'est l'idée effectivement que le tout est plus que la somme des parties. Ce qu'apporte Lévy, c'est au contraire l'idée qui est de la richesse de la collectivité et de la mise à jour en temps réel de cette intelligence collective grâce au réseau. Et donc, Bon, voilà. Alors, je pense qu'il aurait mieux fallu articuler. Alors, c'est vrai que vous le dites, hein, ça permet d'indiquer que l'intelligence collective est composée d'intelligence individuelle et que c'est plus. Ce dépassement, mais. Enfin, oui. Enfin, j'aurais voulu. Fondamentalement, j'aurais aimé que ce soit plus explicitement dit. Voilà. Et que vous articuliez plus facilement les choses en disant, ben voilà, tel auteur dit ça, tel auteur dit ça, quand on compare les deux, voilà ce que l'un dit, voilà ce que l'autre dit, voilà ce que l'un rajoute par rapport à l'autre, etc. Et puis alors sur les définitions, il manque une chose qui était essentielle, c'était votre propre définition de l'intelligence collective, celle que vous allez retenir, celle que vous allez fonder vous-même. Et celle qui va servir de cadre à l'analyse des enjeux. Alors les enjeux, vous le mettez dans le domaine de la gestion, point de départ. Vous parlez de Vincent Léhart, d'accord. Après, le passage au domaine de l'éducation est assez succinct. Vous parlez du processus de collaboration, qui est une compétence indispensable, mais est-ce que la collaboration, c'est vraiment l'intelligence collective? Est-ce que c'est la même chose? Là, je trouve que vous êtes aussi de nouveau assez superficiel. Vous n'allez pas dans le détail des choses. L'action collective est possible s'il y a une collaboration, une cohésion, une confiance entre les élèves, mais est-ce que l'action collective, c'est vraiment l'intelligence collective? Vous posez que c'est la même chose, je n'en suis pas sûr. Vous parlez de la création de groupe, donc là on est déjà plus dans la collaboration. Vous parlez d'un apprentissage social, et ça c'est une bonne idée, mais c'est vrai que c'est extrêmement succinct. L'aspect positif, c'est que vous tentez de faire une carte conceptuelle qui représente les choses, qui représente effectivement pour vous ce que c'est que l'intelligence collective. Mais il manque un pan qui est extrêmement important et qui était le pan apporté par Lévy, qui est celui de l'instantanéité et de la mise à jour permanente. Et ça, vous n'en tenez pas compte, vous n'en voyez pas les implications ni les enjeux, vous ne le reprenez même pas dans votre carte conceptuelle. Et là, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose, quoi. Alors, j'ai aussi un aspect. Le quatrième aspect qui était la bibliographie et la webographie, à la fois, je suis partagé parce qu'à la fois il y a des choses qui sont bien faites et des choses qui sont moins bien faites. Vous avez raison de faire une bibliographie et une webographie, mais donc vous auriez dû mettre bibliographie et webographie et puis une sous-partie bibliographie dans laquelle vous mettez effectivement tout ce qui est de l'ordre des livres, des articles de presse, enfin des articles scientifiques, revues scientifiques, chapitres d'articles, etc. Comme le livre de Lacroix ou celui de Pierre Lévy, que vous référencez, mais pas entièrement correctement. Le Pierre Lévy, il y a deux fois l'éditeur, je ne sais pas pourquoi. La date normalement n'est pas à sa place, le prénom est en entier alors qu'en fait il suffit d'écrire l'initiale du prénom. La date vient entre parenthèses après l'initiale du prénom dans les normes APA qu'on recommande et qui sont utilisées à la FAPC. La revue scientifique en ligne, ben, elle devrait effectivement faire partie de la bibliographie parce que c'est une revue. Une vraie revue, et là un éditeur, ce que vous ne dites pas d'ailleurs, elle est disponible en ligne à travers le site de Cairn, mais c'est une vraie revue, donc il faut vous donner effectivement la date, vous nous donnez le numéro du volume, le numéro du numéro dans le volume, et donc il manque le titre de la revue par exemple, que vous ne donnez pas, donc. Vous mettez les noms en majuscules, ce qui normalement ne se fait pas. Donc là, il y a un certain nombre de petites choses que vous devez absolument reformuler. Quand vous mettez un lien et vous mettez des liens actifs, donc on peut les cliquer, ça c'est déjà extrêmement favorable, mais il faut mettre disponible dans faut codifier en fait la façon dont vous écrivez, respecter le code API. Donc il faut mettre disponible en ligne, il faut mettre la date à laquelle vous avez consulté. Parfois vous mettez consultez-le, parfois vous mettez simplement une date. Donc c'est pas homogène, c'est pas uniforme. Et donc là il y a un travail d'homogénéisation qui est à faire. Voilà. Et alors une chose aussi qui est importante, c'est que vous donnez des références que vous mettez en bas de page par des notes, des références en bas de page. Or, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. C'est un texte uniformisé. Il n'y a pas. Pourquoi faites-vous le bouquin de Lénard en notes en bas de page et le bouquin de Lévy dans la bibliographie? Vous apprenez simplement à référencer dans le texte, comme on vous a appris, une citation, entre parenthèses, nom de l'auteur, date de l'ouvrage, page de laquelle est extraite la citation, fermez la parenthèse. Vous faites ça et vous remettez la référence bibliographique dans la bibliographie, soit en bibliographie, soit en bibliographie. Mais vous faites ça de façon systématique et ça ira très bien. Alors voilà, donc les points forts, je pense, c'est votre historique qui est assez. Non, un point fort, c'est en tout cas votre carte, qui est une tentative de synthèse des enjeux. Mais un point faible au niveau des enjeux, c'est que vous confondez, je pense, intelligence collective et collaboration. Et du coup, ça déforce complètement votre travail. Les définitions, il manque effectivement votre propre définition. L'historique, je vous en ai dit, c'est un peu court. Et puis, la bibliographie, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites et mieux faites que d'autres parmi de vos collègues. Par contre, il y a encore pas mal de détails de mise en forme qu'il faudra que vous corrigiez, ou en tout cas que vous appreniez à corriger pour l'avenir de vos travaux à la FAPC, soit travaux de recherche, soit finalement pour votre mémoire. Voilà. J'espère que ça vous aidera.